Le 14 avril 2023, un avis d'expulsion a été émis à l'encontre du 5 étoiles, un squat basé à Clermont-Ferrand qui vient en aide à des jeunes migrants isolés. Une décision qui intervient alors qu'un grand projet de centre d'hébergement d'urgence était justement en pourparlers pour venir en aide officiellement et légalement à ce public. Sauf qu'avec cet avis d'expulsion, le projet est à l'arrêt et s'il n'est pas enterré, semble tout de même assez verrouillé. Pour comprendre la situation, nous avons décidé de nous rendre directement au sein de ce squat. Françoise Strust nous a reçus, bénévole au quotidien pour accompagner les jeunes. Elle a adhéré au collectif Citoyen 63 en 2018 et s'est surtout très investie après le confinement en 2020, au point de venir quasiment tous les jours désormais au 5 étoiles. C'est dans une salle de cours que notre entretien commence et qu'elle nous explique le fonctionnement du squat.
Au sein du squat 5 étoiles, il y a une trentaine de jeunes, 32 exactement. Il y a 32 lits. Ce qu'il faut savoir que ces jeunes, ce sont des jeunes en recours pour faire reconnaître leur minorité, donc qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département et qui exercent un droit français qui est de pouvoir aller devant un juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité. Il y a une première évaluation qui se fait par le département via une association. Cette évaluation décrète qu'un jeune est mineur ou majeur. Et ensuite, ceux qui ne sont pas reconnus mineurs peuvent exercer leur droit de recours à la reconnaissance de leur minorité. Tous les jeunes qui sont ici sont dans ce cas-là. C'est exactement la population qui est accueillie, hébergée et accueillie et accompagnée au squat 5 étoiles.
Éric Urban, lui aussi bénévole, a d'abord fait partie de la Ligue des droits de l'homme et Réseau Éducation sans frontières. Avec plusieurs membres, il ouvre le squat en septembre 2017 afin de proposer un hébergement plus décent, plus digne que la rue. C'est justement par le 5 étoiles que se crée ensuite le collectif Citoyen 63 en 2018. Cette association recourt à plusieurs verbes pour justifier son action. Mettre à l'abri, accompagner, orienter, soigner, scolariser les mineurs isolés migrants en procédure de recours juridique contre la décision de non-reconnaissance de leur minorité. Aux côtés de Françoise Strus, il explique le processus.
En fait, il y a le Daomi, qui est une association qui est là depuis juillet 2019 et qui est prestataire de services pour le département pour faire l'évaluation. Donc on appelle ça le recueil temporaire. Donc ça dure une dizaine de jours. Et quand il y a des jeunes dont la minorité n'a pas été reconnue et qui veulent faire un recours, généralement ils m'appellent.
Le Daomi appelle le 115. Donc ils sont placés au 115, s'il y a de la place, mais il y a très, très, très peu de place. Donc ensuite, ils arrivent à la Ligue des droits de l'homme, où ils nous appellent directement pour dire la situation, où est-ce qu'ils en sont. Et il y a des bénévoles qui les hébergent parfois, il y a des... Voilà, mais il arrive qu'il y en ait qui soient à la rue.
Il y en a quand même une bonne dizaine qui sont au 115, mais alors du coup, ça peut être des places pour 3 jours... Plus de place, ils en ont encore un peu. Effectivement, le Daomi appelle le 115, il y a très peu de réponses. Même là, par exemple, il y a pour les jeunes filles, des fois, ils rallongent le temps du recueil temporaire pour essayer d'avoir une place au 115, mais ils ne peuvent pas les garder éternellement non plus. Donc voilà, là, c'est un gros problème. Donc après, il peut y avoir des familles d'hébergeurs pendant quelques temps. 2-3 nuits, le temps de trouver une place au 115 aussi.
Avec seulement 32 lits, tous les jeunes ne peuvent pas être acceptés au sein du squat pour assurer les meilleures conditions de vie. Toujours cette question du droit à la dignité, chère au collectif Citoyen 63. De fait, il existe une liste que nous raconte Françoise.
Effectivement, on a une liste d'attente. C'est difficile à dire hein, comme ça, mais on s'est donné des priorités. Déjà, on a 32 places, donc on ne va pas au-delà de ces 32 places parce qu'on veut accueillir... Bien que ce soit dans un squat, mais le plus dignement possible, accueillir et accompagner. Hein. On insiste à chaque fois dessus, parce que accueillir, ce n'est pas juste héberger et donner un toit à ces jeunes en dehors de la rue. C'est-à-dire que notre accompagnement, c'est un accompagnement social qui est global, c'est-à-dire la scolarisation, ça comprend la scolarisation, ça comprend la santé, la protection de ces jeunes, l'éducation, et je vais plus loin, le sport, les loisirs, tout ce qui peut faire la vie d'un jeune. Voilà, c'est pas une simple mise à l'abri. On crée du lien social. Alors, nous travaillons avec d'autres associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, avec RESF, Réseau Éducation sans frontières, avec d'autres associations pour pouvoir justement, parce que là vous êtes dans une salle de cours par exemple, il y a des bénévoles enseignants qui font partie de diverses associations pour dispenser les cours de soutien, les cours pour positionner ces jeunes avant d'effectuer des scolarisations. Mais si on veut parler d'institutions, il y a aussi l'Éducation nationale par exemple. Pour la scolarisation. Il y a bien sûr le département avec Solidarité Santé, avec le dispensaire Émile Roux. Ils ont des cours. Ils n'ont pas des cours à 100% du temps pour ceux qui ne sont pas encore scolarisés. Mais ils ont systématiquement des cours. En fait, ce sont les conditions. Hein. Les jeunes qui sont accueillis ici sont en recours pour faire reconnaître leur minorité. Et la deuxième chose, il faut qu'ils aient un recours et c'est qu'ils acceptent de suivre les cours qui sont dispensés par diverses associations et divers bénévoles.
S'il faut présenter l'équipe, on dira que de nombreux bénévoles gravitent autour du squat ponctuellement, mais ils sont seulement 6 à 7 personnes à être présentes quotidiennement pour assurer la vie quotidienne et aider ces jeunes dans leur démarche. Justement, qui sont ces jeunes ?
Uniquement des garçons. Ce sont des jeunes qui viennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire, le Mali, la République du Congo. Je crois que tous viennent de pays où les situations sont instables pour diverses raisons, que ce soit la guerre, que ce soit les crises économiques graves, que ce soit lié aussi à l'évolution climatique auxquelles ces pays sont confrontés. Ils viennent pas ici pour le plaisir. Ils traversent pas la Méditerranée dans des conditions qui sont dramatiques. Dans notre association, un des membres actifs de l'association est un médecin à la retraite. Elle voit beaucoup de jeunes avec d'énormes traumatismes psychologiques, on n'en parle même pas, donc suivis par l'équipe mobile de Sainte-Marie, mais des traumatismes physiques aussi. Des traumatismes physiques. Il arrive bien évidemment qu'il se confie et qu'il parle de ça, mais c'est, enfin, après c'est vraiment personnel. Hein. Pour moi, c'est difficile. Il faut psychologiquement être vraiment armé pour ça. On peut pas ne pas écouter quand un jeune va se confier, va vous expliquer quelque chose, mais on va vite réorienter vers les personnes qui sont les psychologues et l'équipe mobile vient régulièrement, sur le squat et suit les jeunes. Individuellement.
Moi, pour ma part, je n'ai pas posé la question. J'attends que les jeunes, s'ils veulent en parler d'eux-mêmes, ils en parlent. Et moi, ça peut m'arriver de reprendre un peu le parcours parce que, du coup, vous êtes certaines personnes pour le recours juridique. Donc, on refait un peu l'historique, leur traversée. Mais oui, ça vient. En fait, je n'ai pas envie de poser trop de questions parce que quand ils arrivent, déjà, on leur pose plusieurs fois la même question. Et j'ai pas envie de les accueillir en leur reposant exactement la même question. Voilà.
En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est comme avec nos propres enfants. Moi, souvent, il y a des choses qui sortent quand on est dans la voiture. Par moment, vous avez un jeune avec vous, que vous accompagnez chez le médecin, que vous accompagnez à je ne sais quel rendez-vous et qui va vous déverser des choses. J'ai pas ces questions ni à poser, à juste écouter quand c'est donné et à pouvoir réorienter vers les personnes habilitées à le faire.
On parlait de vie quotidienne tout à l'heure et pour Éric Urban, tout passe par là. Avoir une vie quotidienne, ce terme générique qui englobe les tâches ménagères, le travail, les sorties, les relations sociales, le sport, c'est selon lui la base d'une remise en route dans la vie sociale.
C'est important le quotidien, je pense que c'est par là que ça se passe. En fait, on a même au niveau de l'accompagnement, le simple fait d'accompagner quelqu'un à un rendez-vous, qu'il soit médical, scolaire, etc., c'est aussi le moment d'être tous les deux. Et pas dans le groupe au squat avec plein de monde autour. Même pour le fait de reprendre un peu l'histoire, c'est pas la même chose en fait. C'est vraiment, c'est là effectivement où les jeunes se livrent. Après, effectivement, de voir quelqu'un quotidiennement qui vient, du coup, il y a une confiance qui se crée aussi.
Allez, venons-en à l'actualité. On le rappelle, un avis d'expulsion a été décidé contre le squat 5 étoiles. Pas d'échéance, pas d'informations très précises, juste cet avis qui plonge les bénévoles et les jeunes dans un climat de tension, comme nous l'a signifié la présidente du collectif Citoyen 63, Annie Lyon-Barre. Pour prendre le temps de comprendre, de bien détailler chronologiquement la situation, Françoise Strus détaille point par point les temps forts qui ont amené à ce mois de mai 2023, celui de l'incertitude.
Pour resituer dans le contexte de ce collectif Citoyen 63, il y a toujours eu un positionnement de travail avec les institutions. Donc ça fait plus de 6 ans, on n'est pas en confrontation, en opposition, on a essayé de construire et de travailler avec les institutions. Cette construction, elle a abouti à un projet d'ouverture de centres d'hébergement d'urgence. Pour ce public-là, pour ces jeunes majeurs, en recours de reconnaissance de leur minorité. Ce sont 300 jeunes accompagnés depuis fin 2017. 2017, 6 ans de travail avec les institutions. Aboutissement à un projet de centre d'hébergement d'urgence. Quand je dis institution, c'est un travail avec la préfecture, le conseil départemental, la ville de Clermont et Clermont Métropole. Très récemment, c'est-à-dire janvier 2023, présentation de notre projet et première réunion de travail. Tout le monde lancé dans ce travail-là est partie prenante. Cahier des charges pour tout le monde, c'est-à-dire visiter ce qui peut se faire ailleurs, c'est-à-dire Lyon, c'est-à-dire Paris. Cahier des charges pour tout le monde. Cahier des charges pour la métropole, cahier des charges pour le département, cahier des charges pour la préfecture. Deuxième réunion, première c'est le 18 janvier, celle-ci on s'en rappelle bien, deuxième courant mars, toujours dans la continuité et toujours en travaillant sur ce projet. Et troisième réunion qui était prévue le 17 mai, avec là encore un cahier des charges, avec la préfecture qui devait travailler sur le financement, etc., surtout sur l'aspect juridique, comment pouvait être monté ce projet-là. Et il se trouve qu'en cours de route, à la mi-avril, la présidente de l'association reçoit de la préfecture un avis d'expulsion, demandé par le juge un avis d'expulsion de ce squat. C'est une chose, et c'est une chose, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à exprimer l'expulsion, elle est importante, elle est bien sûr, mais c'est un squat, hein. On savait, il y a un propriétaire, même si ce n'est pas un propriétaire qui veut habiter cette maison, il y a un propriétaire, on savait qu'on partirait, mais on savait qu'il y avait un projet qui était en cours. Là, ce qui nous a été annoncé, c'est expulsion et arrêt du projet. C'est là qu'est vraiment le danger, c'est là qu'est la catastrophe dans laquelle ça met tout le monde, et les jeunes en premier lieu, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui se passe quand on va être expulsé ? Ce qui justifie l'arrêt du projet, c'est le manque de financement, d'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de crédit possible, c'est la réponse de la préfecture.
Nous avons demandé une réaction à la préfecture du Puy-de-Dôme concernant cette situation, qui nous a écrit en retour la réponse suivante.
Suite à la décision de justice ordonnant l'expulsion du site, le commissaire de justice a saisi le préfet pour le concours de la force publique. Celui-ci instruit cette demande. En parallèle, une équipe mixte composée des services de la DDETS, de l'OFI et du conseil départemental s'est rendue sur site afin d'examiner une nouvelle fois la situation administrative des personnes concernées. Il s'agit d'établir en fonction des situations individuelles et en lien avec les partenaires institutionnels les éventuelles modalités de prise en charge aux dispositifs d'accompagnement de droit commun qui peuvent être mis en place.
En dehors de cette réponse, la préfecture a décliné notre demande d'interview.
On a été prévenu d'une possibilité de recensement des jeunes. Donc le 10 mai, il y a eu ici au squat un recensement des jeunes qui étaient présents. On avait demandé une file active, parce que c'est fluctuant. C'est-à-dire que depuis le 10 mai, il y a 3 jeunes qui ont été repris par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils sont passés devant le juge et que leur minorité a été reconnue. Et il y en a d'autres qui se trouvaient à la rue. C'est le cas de ce jeune qui est présent ici tout de suite et qui sont arrivés. Donc par exemple, ce jeune qui est présent, dont je ne donnerai pas le nom, mais lui n'a pas été recensé. Ils sont venus à 6 ou 7 personnes, ils sont installés ici et les jeunes sont venus de leur plein gré. Chaque jeune est allé discuter avec ces personnes qui ont relevé leur nom, leur âge, leur cursus, s'ils allaient à l'école, s'ils n'allaient pas à l'école, s'ils étaient internes, pas internes, etc. S'ils dormaient vraiment au squat, voilà ce qui s'est passé. Sauf que depuis le 10 mai, et ce qu'on ne cesse de répéter, c'est que la population fluctue. C'est-à-dire que les jeunes qui sont accompagnés ici, on va dire à peu près 300 depuis 2017, il y en a 80%, tu me dis Eric si je me trompe, qui ont été reconnus mineurs.
Ouais, 80% des personnes qui restent en fait. Il y a aussi des départs où les jeunes décident de partir ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, pour rebondir un petit peu sur ce projet-là, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre la nécessité d'avoir un lieu pour éviter une errance de ce public partout en France. Et en fait aussi de pouvoir vraiment exercer le droit au recours. S'il n'y a aucun logement, ce n'est pas possible. Avec le Daomi, même pour eux, sauf que ça va leur... si vraiment il n'y a aucun projet, aucune structure, ils vont avoir du mal. Puisqu'en fait, ils mettent des jeunes à la rue et du coup, même des jeunes qui voudraient faire un recours, ce n'est pas forcément évident pour eux, hein, même pour les travailleurs sociaux. Et en fait, il y a effectivement une volonté de ne pas vouloir comprendre de la part, surtout de la part de l'État. Ouais, c'est un peu surprenant. Et même ce côté de fil actif, en fait, ils ne comprennent pas. Voilà, ça s'est un peu mieux passé, je trouve, qu'en 2018, où ils étaient venus à l'improviste, qu'ils avaient pris trois noms, et voilà. Ils ont une meilleure écoute, quand même, de la part de la DDTES. Mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre que c'est une file active. Donc, ils ont été prendre des noms. Comme Françoise l'a dit, en fait, les noms, ils songent quand même assez régulièrement, quoi.
En effet, ce jeune dont nous parlait Françoise dans l'interview a suivi une partie de notre entretien avec une oreille attentive. Il vient d'arriver au squat et nous a confié hors micro.
Je me sens très mal parce qu'on ne sait pas où on va partir. On ne sait pas si c'est demain ou après-demain. Je me sens bien ici, en sécurité. Je peux me reposer. Comment je vais aller en cours si je n'ai pas dormi ?
Même au niveau sanitaire, en fait, c'est important d'avoir un lieu pour récupérer ces jeunes. Parce qu'ils peuvent arriver avec des problèmes de santé. Par exemple, je vois, en fait, quand ils font le recueil temporaire au Daomi, ce qui a été mis en place par eux et qui n'était pas avant, il y a un premier contact avec Émile Roux pour un bilan hémato, pour voir s'il n'y a pas d'hépatite, d'HIV, etc. Et débuter des vaccins. Sauf qu'en fait, c'est arrivé des fois où il y avait des jeunes qui faisaient leur bilan hémato. Il reste une dizaine de jours, ils n'avaient pas le résultat. Et après, le résultat, ils étaient partis dans la nature, le résultat tombé, et en fait, il y avait des maladies qui étaient quand même assez importantes.
Si on interroge aujourd'hui l'État va vous dire, on va sortir ces jeunes de ce squat, puisqu'il y a une expulsion, mais ils seront relogés. Pas d'inquiétude, ils seront relogés. Sauf que nous, par rapport à ça, on dit, ah oui, ils seront relogés, mais comment ? Comment ? Individuellement, au 115 ? Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place au 115. Le 115 ne répond même pas au Daomi. Il n'y a plus de place au 115. Admettons qu'il y ait des places au 115. Combien de temps au 115 ? Admettons encore que ce soit un petit peu plus longtemps. On connaît la population du 115. On connaît les gens qui sont au 115. Les gens qui sont au 115 sont des adultes, souvent alcoolisés, avec des jeunes qui sont à l'école, etc. Enfin, c'est juste impossible. Donc, ce qu'on demande, c'est quel hébergement ? Quel hébergement et comment ? Et l'hébergement qui sera adéquat, ce qu'on veut pour ces jeunes, c'est un hébergement qui soit plutôt collectif, où ils puissent continuer à être accompagnés et non juste mis à l'abri. Être accompagnés socialement. Pour eux, avant tout pour eux, bien évidemment, mais c'est aussi une protection pour notre société. C'est aussi une protection pour notre société. Parce que quand ils sont aujourd'hui mis à l'abri et accompagné comme on peut le faire socialement, culturellement, sanitairement, etc., scolairement bien sûr. Et quand on est accompagné, ben on n'est pas à la rue. On n'est pas à la rue, on n'est pas soumis aux dangers de la rue, à la drogue, à la délinquance, à tout ce que vous voulez pour survivre, hein, pour survivre.
En guise de conclusion, nous avons posé une question, peut-être la plus concrète de toutes. Savez-vous quand prendra acte cet avis d'expulsion et quand vous allez partir du squat ?
On rencontre les jeunes et c'est la question qui nous pose. C'est la question qui nous pose. On n'a pas de réponse. On n'a pas de date. On n'a pas d'échéance. On n'a pas. Bah, 10 mai, il y a eu un premier recensement. On nous a envoyé le retour de ce recensement. Avait été recensé 31 jeunes, etc. Tel âge. Bon, on nous a pas envoyé, pas avec les noms, mais ce recensement-là, on nous a envoyé ça, mais il ne nous a pas été dit, eh bien maintenant que nous les avons recensés, ce sera dans 15 jours, ce sera dans 3 semaines, on ne sait pas. Vous voyez, regardez, on a prévus pour les jeunes. Ça va leur être distribué. Des contacts, si jamais ils partent et que c'est du jour au lendemain, qu'ils sachent voilà, les contacts du collectif citoyen 63, les contacts de la Ligue des droits de l'homme, les contacts pour les cours, etc. Qu'ils aient au moins ça avec eux. Oui, on craint que ce soit du jour au lendemain, bien sûr, puisqu'on n'a pas d'échéance, on est prévenu de rien.
Pour l'instant, aucun autre endroit n'a été ciblé. Les bénévoles ont toujours l'espoir de la création d'un centre d'hébergement d'urgence pour ces jeunes. Pour rappel, les différentes institutions en étaient à la phase d'estimation du budget de ce CHU. De l'espoir donc, mais surtout du dépit et de la peur.
Dépité, en colère. Moi, c'est pas quelque chose qui m'anime, la colère, jamais. Mais là, très en colère. Et aussi une inquiétude... Une inquiétude vraiment extrêmement importante. Ça se voit peut-être au CERN et voilà, parce qu'on n'a pas de solution et qu'on est extrêmement inquiet pour ces jeunes et pour ceux qui sont à venir. On insiste encore une fois sur cette file active. Voilà, il faut compter une bonne trentaine de jeunes, 35 en moyenne. Et c'est ce sur quoi on travaillait avec l'ensemble des institutions.
Oui, effectivement, on peut parler de dépit. Dépit face à l'État qui ne veut pas, encore une fois, qu'il se voile de la face, qui ferme les yeux et qui fait l'autruche, en fait. Et inquiet aussi par rapport à l'avenir, hein, puisque du coup, cette situation-là ne va faire que s'augmenter, et si elle n'est pas gérée, ça va être affolant. Il faut vraiment avoir la niaque quand même pour pouvoir continuer. Déjà en tant qu'association en France, même dans pas mal de secteurs, c'est de plus en plus dur, mais après... Quand on touche à l'accueil des étrangers, quand on voit que les lois se durcissent de plus en plus, bien sûr, il faut tenir. Le leitmotiv, c'est de voir justement les jeunes en face, qui fait qu'on ne peut pas non plus rester indifférent, quoi.
L'entretien avec Françoise Strus et Éric Urban a eu lieu le 23 mai. Au 12 juin 2023, la situation n'a pas évolué et c'est toujours l'incertitude au squat. 3 jeunes ont été repris par l'aide sociale à l'enfance. 3 autres sont arrivés aux 5 étoiles. Le collectif citoyen 63 a demandé un rendez-vous avec le préfet qui les a renvoyés vers les services de la DDETS qui suit le dossier. Le rendez-vous aura lieu fin juin pour peut-être plus de précisions sur l'avenir du squat.